Bon week-end à tous, vous écoutez France Inter, première radio de France, il est 19h. Et le journal est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Un pas en arrière pour Matteo Salvini en Italie. Le ministre italien de l'Intérieur autorise à Lampedusa le débarquement de 27 migrants mineurs non accompagnés. Une centaine d'adultes restent à bord de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol toujours ancré au large. Un accord historique au Soudan. Après plus de 8 mois de manifestations, les militaires font une place aux civils dans le gouvernement pour mieux avancer vers la démocratie. Deux jours après Saint-Raphaël, Emmanuel Macron à Bormes les Mimosas ce soir pour le 75e anniversaire de la libération de la ville. Dans ce journal également, intensifier la lutte contre le braconnage et le commerce illégal, une urgence pour les espèces menacées d'extinction. Et c'est ce dont débattent à Genève les experts de 180 pays. France-Écosse à Nice tout à l'heure, le premier match de préparation du 15 de France pour la Coupe du Monde. Premier match également de l'entraîneur adjoint, futur sélectionneur Fabien Galthié. Et puis la météo, le même scénario quasiment qu'aujourd'hui, demain dimanche, de la grisaille dans les deux tiers nord du pays. Un bon ensoleillement dans le sud-est.
France Inter.
En Italie, 27 migrants mineurs non accompagnés ont donc été débarqués de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol ancré au large de Lampedusa. Il attendait depuis plusieurs jours le feu vert des autorités italiennes, notamment du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fini par s'y résoudre à contre-cœur, comme il l'a lui-même écrit au président du Conseil, Giuseppe Conte, et tout en exigeant que les 106 migrants adultes et les mineurs accompagnés restent à bord. Au-delà des considérations humanitaires pour Salvini, c'est sa crédibilité politique qui est en jeu à Rome, Antonino Gallofaro.
Matteo Salvini a cédé. Cette fois, il a écouté son chef, le Premier ministre Giuseppe Conte. Il a accepté de faire descendre les mineurs présents à bord de l'Open Arms. Mais pas tous les mineurs, attention, seulement les 27 mineurs non accompagnés. C'est l'ONG espagnole qui s'empresse de le préciser. Ils ont quitté le navire peu après 17h. Le chef de la Ligue ne le communique pas en grande pompe sur ses réseaux sociaux, comme il le fait d'habitude. Sur Twitter, aujourd'hui, on le voit plutôt en pantalon court, torse nu au milieu de fleurs de courgettes. Il fait part de sa décision au président du Conseil par communication privée. Et malgré lui, écrit-il, pour donner exemple de sa collaboration loyale. Giuseppe Conte l'avait en effet rappelé à l'ordre il y a deux jours et prié de ne plus faire campagne électorale sur le dos des migrants malgré la crise politique. Il s'agit d'une sorte de nouvelle défaite pour le ministre de l'Intérieur. Cette semaine, la justice a rejeté l'un de ses décrets d'interdiction d'entrée en eaux italiennes contre l'Open Arms et quand il en a émis un nouveau, la ministre de la Défense a refusé de le signer. Toujours plus d'une centaine de personnes sont à bord du navire de l'ONG bloqué au large de Lampedusa depuis 16 jours. 6 pays européens dont la France ont accepté de les accueillir. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et le sort de l'Open Arms n'est pas réglé, qu'il va falloir se préoccuper de l'Ocean Viking, le bateau d'SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières. Lui aussi en attente de trouver un port de débarquement pour les 356 migrants qu'il a pu secourir. Au Soudan, et si l'espoir était vraiment permis 4 mois après le départ du président Omar el-Béchir, militaires et civils se sont mis d'accord aujourd'hui à Khartoum pour gouverner ensemble et avancer sur la voie de la démocratie. Omar Ouaman.
C'est une journée historique que les Soudanais ont vécue ce samedi. Après plus de 8 mois de contestations réprimées dans le sang, 250 morts et des centaines de blessés, la détermination de l'opposition est parvenue à faire plier les généraux de l'armée soudanaise qui ont fini par accepter de transférer progressivement le pouvoir aux civils. L'accord conclu aujourd'hui à Khartoum prévoit d'organiser dans le détail la transition qui devrait durer pas moins de 39 mois. Dès demain, le conseil militaire sera dissous et remplacé par une présidence tournante issue d'un conseil souverain composé de 5 militaires et de 6 civils. Dans 3 jours, le 20 août, un premier ministre sera désigné. Il aura la lourde tâche de former un gouvernement dont les postes clés resteront réservés aux militaires. Une nouvelle constitution sera rédigée et si le partage du pouvoir entre militaires et civils se déroule comme prévu, des élections générales seront organisées en 2022. Mais en attendant, le nouveau gouvernement devra sortir le Soudan de la crise économique à l'origine du mouvement de contestation.
Omar Ouaman. À Moscou, la manif était interdite. Quelques dizaines de militants de l'opposition se sont manifestés en solitaire, toujours pour les mêmes raisons depuis un mois, pour exiger que le scrutin local du mois prochain puisse se dérouler de façon libre et transparente. Au même moment, un rassemblement des communistes autorisé, celui-là, réunissait quelques milliers de personnes, beaucoup moins qu'espéré par les organisateurs. Jean-Didier Revoin à Moscou.
Une multitude de drapeaux rouges flanqués de la faucille et du marteau flottait au-dessus des 4 à 5 000 participants au meeting du Parti communiste sur l'avenue Sakharov, une avenue bien clairsemée, une semaine après que 50 000 moscovites ont répondu à l'appel des libéraux. Pavel Lavintaine a son explication.
L'électorat du Parti communiste diminue naturellement. Il meurt en raison de leur âge. Et la jeune génération ne soutient pas les communistes.
Si le Kremlin entendait faire baisser les rangs de l'opposition libérale en utilisant les communistes, c'est un échec, malgré l'enthousiasme des militants du parti, comme Tatiana.
Je suis contre la politique du gouvernement, contre les élections frauduleuses, parce que c'est insupportable de juste attendre et regarder ce fouillis, ces actes abominables. Chaque homme décent et honnête doit agir de cette manière.
L'opposition libérale s'est elle aussi montrée plutôt discrète. La mairie de Moscou avait interdit tout rassemblement, raison pour laquelle, conformément à la loi russe, quelques protestataires se sont munis d'une pancarte en prenant soin d'observer entre eux une distance de 50 mètres, sous l'œil attentif de la police. Mais la mobilisation de ces dernières semaines n'était pas au rendez-vous, les opposants attendant sans doute d'autres manifestations à venir d'ici les élections de septembre. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
En France, il était jeudi à Boulouris dans le Var pour célébrer les 75 ans du débarquement de Provence. Il célèbre tout à l'heure la libération de Bormes, les Mimosas. Et la boucle sera bouclée pour le chef de l'État qui multiplie depuis l'automne les cérémonies de commémoration de deux conflits mondiaux. Le centenaire de la Grande Guerre, le débarquement de Normandie et maintenant donc la Provence. Saint-Raphaël jeudi. Ce soir, Bormes, les Mimosas, commune où se situe le fort de Brégançon, résidence d'été des présidents. L'occasion en tout cas pour Emmanuel Macron d'un nouvel instant de convivialité, Manon Clavry.
Sous le soleil, les drapeaux, les ballons et les fanions bleu, blanc, rouge flottent au milieu des palmiers. Beaucoup de monde dans les rues, certains sont en tenue d'époque. Un groupe d'amis est venu de Fréjus, déguisé en civil des années 40. Ils portent des bretelles, des bérets, des chaussettes sous des chaussures à talons. Une dizaine de chars sont garés près de la mairie. Eric séjourne près du Cap Nègre et a profité d'une balade à vélo pour s'arrêter devant un véhicule américain.
C'est un char Sherman. C'est le principal char de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez impressionnant, oui, de voir ça. On se dit qu'on n'a pas envie de passer en dessous. Il ne faut pas oublier qu'il y a 75 ans, ça a servi à enlever des vies, surtout.
La cérémonie a lieu sur la place de la mairie. Emmanuel Macron, lui, doit prendre la parole en dernier, après le maire de la ville, François Arizzi. Pour Emmanuel Macron, c'est la fin de 3 semaines de vacances studieuses, dixit l'Elysée. Le chef de l'État ne retourne pas tout de suite à Paris. Il doit recevoir le président russe Vladimir Poutine à Brégançon lundi. Mercredi, ce sera la rentrée du Conseil des ministres. Et puis, le week-end prochain, direction Biarritz pour le sommet du G7. La rentrée sera donc chargée pour le président de la République, d'autant que des réformes sensibles sont à l'agenda de l'Assemblée nationale, la réforme des retraites et l'extension de la PMA notamment. À Bormes-les-Mimosas, Laurent Lucas, Manon Clavry pour France Inter.
Le journal de 19h sur France Inter.
1 million d'espèces menacées de disparition sur la planète, c'était au mois de mai le constat accablant d'un rapport de l'ONU sur la biodiversité. C'est aujourd'hui le cri d'alarme que lancent les experts réunis à Genève au sein de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Pour eux, plus de temps à perdre, la lutte contre le braconnage et le commerce illégal doivent être profondément intensifiées, faute de quoi adieu les tigres, les éléphants, les pangolins. D'où l'intérêt d'une loi qui puisse interdire ou réglementer leur commerce, comme l'explique à Yann Gallic, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, Bruno David.
Il y a des institutions, comme le Muséum d'ailleurs, qui participent à établir des listes rouges d'espèces qui sont en danger d'extinction ou qui sont sous une pression anthropique très importante. La CITES, c'est on passe en quelque sorte au juridique, c'est-à-dire qu'on passe dans la loi, une loi internationale, qui dit ces espèces-là, qu'on a identifiées comme étant en danger, on interdit le commerce de ces espèces. Par exemple, le commerce de l'ivoire est interdit. Donc on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'acheter un morceau de défense d'éléphant et de rapporter ça chez soi, et encore moins d'en faire le commerce. Il y a des choses qui sont complètement interdites, il y a des choses qui sont régulées. Alors maintenant, il y a toujours des gens qui vont essayer de contourner la loi. Et d'un pays à l'autre, évidemment, les contraintes et la surveillance ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est pour limiter les pressions sur les espèces qu'on a identifiées comme étant menacées. On sait très bien que si on se projette à l'horizon 2100 sur la tendance actuelle, le plus gros mammifère qui existera sur Terre, ça sera la vache. Donc vous voyez un petit peu où, sur quelle tendance on est. Donc protéger des espèces aussi par anticipation, même si elles ne sont pas en danger imminent d'extinction, c'est important.
Et au programme de cette convention qui se réunit tous les 3 ans, le sort des éléphants d'Afrique, du crocodile américain, de la loutre, de certaines populations de lézards, de requins et de raies, mais aussi d'arbres et de plantes rares, de plus en plus rares. L'incroyable aventure d'un parapentiste dans la vallée d'Aspe, accroché pendant plus de 4 heures à une ligne haute tension de 63 000 volts. L'alerte a été donnée hier soir vers 19h, mais les pompiers ont dû attendre que l'électricité soit coupée pour pouvoir intervenir et récupérer le parapentiste qui s'en sort avec une belle frayeur. Le capitaine des pompiers, Pierre Bersetcher, raconte au téléphone de Maud Calves.
La voile s'est entourée donc sur le fil de terre qui est au-dessus, et lui il a dû tourner autour, il n'a rien touché. Il avait par contre les suspentes qui touchaient les fils, mais apparemment c'est pas conducteur, quoi. Il a eu beaucoup de chance. Il faut déjà essayer de le rassurer. Le dispositif se met en place prêt à intervenir. Dès qu'on a été sûr que le courant était coupé, on a pu envoyer une corde sur laquelle lui il a pu déjà s'assurer en attendant que le gars du grimpe puisse arriver à lui, parce que ça a quand même pris pas mal de temps. Il trouvait le temps long, mais bon, c'est malheureusement on peut pas faire autrement. Il avait du monde à côté, il voyait que les choses se mettaient en place. Il a quand même bien expliqué que il fallait que le courant soit coupé. Il est toujours resté calme, et après c'est sûr qu'il lui tardait de regagner le sol, on va dire. On a été agréablement surpris de le trouver vivant, parce que je pense qu'il peut aller à Lourdes. On va dire qu'il a eu très très chaud, quoi. Et puis il a eu le temps de s'en rendre compte, on va dire. Je pense que même pour le grimpe, c'est la première intervention qu'il faisait vraiment de ce type-là, quoi.
Voilà, le grimpe, groupe spécialisé dans les interventions en milieu périlleux. En sport, dans un mois, quasiment le 20 septembre, la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les Français dans un groupe difficile, avec notamment l'Angleterre et l'Argentine. Des Français qui se cherchent et ne se sont toujours pas retrouvés cet hiver pendant le tournoi des Six Nations. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Première réponse tout à l'heure sur la pelouse de l'Alliance Riviera de Nice pour leur premier match de préparation face à l'Écosse, avec des nouveautés, deux premières sélections pour Cross et Raka, un premier brassard de capitaine en bleu pour Jefferson Pouarou et les grands débuts de Fabien Galthié au poste d'entraîneur adjoint en titre, mais qui fait déjà figure de numéro 1, Vincent Pellegrini.
À la vue des entraînements ouverts à la presse depuis le début de la préparation du 15 de France, l'image est saisissante. Au cœur du terrain, Fabien Galthié dirige les séances, donne ses consignes, le verbe haut, lui qui n'a pris ses fonctions qu'au début de l'été. Et en retrait, au bord de la pelouse, Jacques Brunel donnant l'impression d'avoir déjà passé la main à son nouvel adjoint. Sauf à l'occasion des conférences de presse que le sélectionneur continue d'animer et au cours desquelles il vante cette nouvelle organisation qui lui permet, dit-il, de prendre du recul. Discours repris par les joueurs à longueur d'interview. Le contraire serait étonnant quand on sait que Fabien Galthié deviendra officiellement le sélectionneur du 15 de France après la Coupe du Monde. C'est bien en cela que la situation actuelle est assez déroutante, en tout cas unique dans l'histoire du rugby français. Un futur sélectionneur en poste avant de prendre ses fonctions. Après tout, vu l'état déprimant du 15 tricolore depuis de longues années, on peut se dire que même les options les plus surprenantes peuvent être tentés.
France-Écosse à Nice à 21h. Tout à l'heure, le Pays de Galles a battu l'Angleterre 13-6. Ce matin, les All Blacks ont pris leur revanche contre les Australiens qui les avaient battus la semaine dernière. Et quelle revanche, 36-0. En Ligue 1 de football, après le 6-0 des Lyonnais contre Angers hier soir, le deuxième match de cette deuxième journée, c'est en ce moment même à la Beaujoire, Nantes face à Marseille. 0-0 pour l'instant. Reste quelques minutes à jouer, Cédric Guillou.
Oui, exactement, Yves. Il reste 5 minutes à jouer très exactement dans le temps réglementaire de cette rencontre. 0-0 effectivement, et des Marseillais qui souffrent dans cette fin de partie avec Steph Mandanda dans le but qui sauve l'OM d'une deuxième défaite dans ce début de saison. Il a repoussé à plusieurs reprises des tentatives des attaquants nantais, de Bamba, de Touré et dernièrement d'Irman Louzin, jeune joueur aligné ce soir par Christian Gourcuff. L'Olympique de Marseille qui souffre mais qui aurait dû être devant au tableau d'affichage, puisque les Marseillais ont eu la plus grosse occasion de la partie. Un pénalty à la 30e minute de jeu, obtenu à la suite d'une main dans la surface de réparation nantaise d'Abdoulaye Touré. Pénalty qui a été manqué par la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, celui que l'on attend du côté de l'OM comme le grand attaquant, et bien Dario Benedetto, l'Argentin, a envoyé un missile au-dessus de la barre transversale d'Alban Lafont. 0-0 donc, dans une Beaujoire pleine à craquer avec beaucoup d'ambiance à 5 minutes de la fin de ce Nantes-Marseille.
Et oui, on l'entend, Cédric Guillou à la Beaujoire. Sur les routes, des retours difficiles ce soir, c'est toujours compliqué sur la 7, Pierre-Antoine Lefort.
Route des vacances que vous êtes nombreux à terminer. Conséquence, 2h40 entre Orange et Lyon. Ça bouchonne aussi dans le sens inverse avec environ 2 heures pour faire ce trajet. C'est la fin des vacances aussi depuis l'Espagne. Vous patientez au péage du Pertus où les contrôles de police ont été renforcés. Rajoutez 1h40. Vous êtes aussi bien ralenti si vous êtes sur l'A61. Comptez 2h20 entre Toulouse et Narbonne. Et puis direction l'A10. Comptez 1h10 pour faire Bordeaux-Saintes. Vous êtes encore ralenti jusqu'à Niort et à l'arrivée sur Tours avec 9 km de bouchons causés par un accident. Vous êtes maintenant au péage de Saint-Arnoult, et bien encore un peu de patience, vous envoyez le bout, il y a un peu de monde, vous avez une quinzaine de véhicules devant vous.
Pierre-Antoine Lefort, OPC Mobilité de Radio France. La météo, Jean-Pierre Hameau.
Prévoyez une nuit bien pluvieuse de la Bretagne à la Normandie et de la région parisienne jusqu'aux frontières du Nord. Demain matin, nous allons retrouver notre perturbation des Pays de Loire au Poitou, de la région centre à l'Île-de-France et jusqu'aux frontières belges. Les pluies seront encore localement soutenues et en particulier près des frontières. À l'arrière, de la Bretagne à la Normandie, établissement d'un ciel de traîne. Et partout ailleurs, votre matinée sera assez bien ensoleillée. À noter la persistance de grisailles autour du golfe du Lion, ainsi qu'en basse vallée du Rhône, apportant de faibles précipitations. L'après-midi, la perturbation va gagner le sud-ouest, le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Prévoyez des averses parfois orageuses. Dans les autres régions, le ciel alternera éclaircies et passages nuageux. Seul le massif alpin, la région PACA et la Corse conserveront un très bon ensoleillement. Les températures maximales seront stationnaires en général. Prévoyez quand même une nette hausse dans le nord-est avec 28 degrés à Nancy, 30 à Besançon et 32 à Mulhouse et Strasbourg.